Voilà, le premier témoignage. Il y en a normalement un deuxième à suivre. Donc tout dépendra des interventions. Qu'est-ce que ça nous inspire?
J'ai été touchée par la simplicité du message, la façon que ça a été donné, la façon que ça a été reçu. Et c'est ce que c'est simple. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ah oui, je comprends très bien. Je comprends très bien.
C'est rafraîchissant, c'est bien.
Voilà, et c'est vrai, cette simplicité donc, reflète vraiment, je dirais, finalement, la simplicité aussi avec laquelle le Seigneur est venu annoncer l'Évangile. Lorsqu'on fait la différence entre l'Évangile et la loi était compliquée, était difficile, non seulement à comprendre, mais surtout à pratiquer. Voilà. Et le Seigneur est venu simplifier les choses en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a plus besoin d'accomplir toutes sortes de rituels, toutes sortes d'un programme compliqué, mais uniquement en acceptant Jésus-Christ, les choses, ben, finalement, ont été simplifiées. Et il y a une prédication aussi que j'aime beaucoup qui illustre aussi la simplicité. C'est après la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché. Lorsqu'on lit la prédication de Pierre, c'était une prédication très simple. Il a simplement parlé de qui était Jésus. Voilà comment vous l'avez crucifié. Et puis, les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé alors? Ben, repentez-vous et soyez baptisés. Donc, quand on lit la prédication de Pierre, c'était très simple. Et c'est dans la simplicité, finalement, que l'on voit vraiment la puissance de l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi a dit que lorsqu'il parlait aux Corinthiens, il n'est pas venu avec un langage particulier. Il dit que lui-même, il était tremblant, quoi. Et il explique qu'il n'a pas voulu, en quelque sorte, que les gens mettent foi dans ce qu'il disait. Voilà. Mais il fallait que l'Évangile soit prêché d'une manière très claire pour que les gens mettent la foi dans la parole et non pas forcément dans, comment dire, l'éloquence. Il y a des gens qui peuvent être touchés par l'éloquence parce que la prédication a été bien amenée, mais ils ne sont pas vraiment touchés par l'Évangile. Ils sont touchés simplement par la forme des choses, par l'environnement, mais l'Évangile même ne les a pas touchés. Et c'est vrai que c'est important de souligner ce côté-là de simplicité.
Oui, je voulais dire par rapport à la simplicité de l'Évangile. Oui, quand l'Évangile est prêché dans des termes simples, Paul le dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il fallait que les Corinthiens gardent l'Évangile dans les termes qui les avaient prêché l'Évangile. Donc, dans l'Évangile, même dans les paroles de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Donc, l'Évangile doit être prêcher simple avec les termes bibliques, quoi, je veux dire.
Avec les termes bibliques et puis les termes au niveau des humains.
Ouais.
Voilà, c'est ça qui est important. Je me rappelle, une fois, ça devait être peut-être les élections présidentielles, je ne sais pas, il y a combien de temps, plus de 10 ans, hein, je ne sais plus c'était quel président qui était passé, et on avait fait des interviews à différentes classes sociales, voilà, parce que ça existe. Et donc, il y a une dame à qui on a posé la question, qu'est-ce que vous pensez du programme de tel? Elle a dit, déjà, je ne comprends même pas quand il parle. Alors, pour qui voulez-vous que je vote? Je ne comprends pas. Pourquoi? Dans une manière de dire que le langage que les politiques utilisent, ce n'est pas un langage qui est accessible à tout le monde. Donc, je vais voter pour qui? Je ne comprends pas les mots qu'il utilise. Il ne parle pas à mon niveau, à moi. Il parle peut-être pour voilà, une catégorie de personnes. Donc, ce n'est pas accessible pour nous. Et c'est une réalité. Que la manière dont des fois les hommes politiques parlent, tout le monde ne saisit pas. Toute la conversation, et à un moment donné, on peut être perdu parce qu'il y a un vocabulaire qui est utilisé, qui est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop technique pour certaines personnes. Or, la réalité de l'Évangile, comme tu l'as souligné, donc doit être accessible à tout le monde. Voilà, doit être accessible à tout le monde avec des mots simples que tout le monde puisse comprendre. Et puis, ce n'est pas une question de longue discussion. On a vu là, à l'image de ce qui est dans la parole de Dieu, et comme ça a été illustré là, pour faire accepter le Seigneur, la prière a duré quoi? 10 secondes. Hein? 10 secondes, donc il n'y a pas besoin de faire toute une longue messe, toute une longue gymnastique pour accepter le Seigneur. C'est aussi simple que ça.
Et ça illustre aussi que Dieu des fois prépare le cœur parce qu'il avait déjà préparé le cœur de Mohamed pour le recevoir. Donc quand la prière a été simple, le cœur était déjà préparé.
Voilà, une question alors par rapport à ça. Comment son cœur a été préparé? Comment le cœur de Mohamed a été préparé?
Par les songes?
Par les songes?
Mais déjà au départ, on voyait que c'est quelqu'un qui avait soif, qui cherchait le Seigneur, enfin qui cherchait Dieu. Donc déjà, le fait de demander à son père d'apprendre le Coran et tout ça, donc c'est quelqu'un qui avait déjà une certaine soif.
D'accord. Mais là, on demande l'action du Seigneur. Donc ce que tu dis, c'est vrai aussi. Donc la sœur Daniela a souligné, par les songes. Marie-Paul aussi voulait intervenir.
Ben, en fait, je voulais dire ça aussi, par les songes. Et puis après, il a été suivi par un groupe de chrétiens qui l'ont expliqué la parole. Et... Mais c'est aussi par les songes. Quoi.
D'accord.
Je pense que dès le départ, le Seigneur lui a donné un certain discernement parce que le premier rêve quand même qu'il a fait, il n'était pas non plus agité pour le raconter à son père. Donc son père aurait pu lui embrouiller comme il l'a embrouillé après, mais il est resté dans ce calme et à attendre par la suite ce qui allait se passer.
D'accord.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est la foi qu'il avait au moment où il a pris la coupe du poison. C'est quelque chose d'énorme. Il a dû recevoir une grâce incroyable pour pouvoir oser boire ce poison et penser que Dieu allait le permettre qu'il ne soit pas empoisonné. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. On ne peut pas témoigner de ça à des gens qui sont à peine convertis. Ce n'est pas évident.
Lui, il est à peine converti.
Ben oui, justement.
Voilà, donc ça veut dire que si pour lui ça a été valable, donc ça doit aussi être valable pour tous les nouveaux convertis. On va aussi débattre là-dessus, parce que finalement c'est le même évangile que nous avons. Si aujourd'hui donc nous regardons ce témoignage-là et que nous pouvons, je dirais, être enseignés, c'est parce que nous pouvons dire avec assurance qu'il n'y a rien dans ce témoignage qui est anti-biblique. Donc ça va vraiment dans le sens de la Bible et tout est justifié par la parole. Oui.
Je voulais dire aussi que c'est par des épreuves qu'il a passé et qu'il a vu la gloire de Dieu.
Là, la question qui était posée, c'était comment le Seigneur a préparé son cœur.
Oui, par des épreuves aussi. Parce
pour,
qu'il
pour, l'accepter, pour l'accepter lui, comme pour accepter Jésus.
Il y a aussi des épreuves, puisqu'il a eu il a été attaqué, il a failli mourir. Il a vu aussi la main de Dieu et tout ça aussi, ça joue.
Bon, ça, c'était après. Avant aussi? C'était après.
Avant, c'était dans les songes.
Avant, c'était dans les songes.
Oui, parce qu'on voit que c'était quand même quelqu'un de humble, quelqu'un qui n'avait pas d'orgueil. Alors, même s'il n'était pas chrétien... Il ne voulait pas engager les choses comme ça, il ne voulait pas se marier. Il cherchait quelque chose. Je pense que son cœur était... Il cherchait quelque chose, mais il ne savait pas ce qu'il cherchait. Donc le Seigneur préparait le cœur.
D'accord. Donc on est d'accord pour dire qu'il avait, en tout cas, la soif de connaître Dieu. Maintenant, dans l'éducation, l'héritage qu'il a reçu par la famille, donc qui était l'islam, pour lui, naturellement, s'est tourné vers leur Dieu Allah. Mais dans le souci vraiment de chercher qui était Dieu. Et il y a un verset dans la Bible qui nous parle de ça, que si vous me cherchez de tout votre cœur, non? Non? Dans quoi? Jérémie 29. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et donc, pour en revenir à la question, oui, le Seigneur a préparé par les songes. Et ce qui doit être pour nous, je dirais aussi, non, je ne veux pas dire un indice, mais une notion que nous devons connaître, que nous devons accepter, que le Seigneur parle aussi par les songes. Nous sommes d'accord pour dire que les songes, ni les visions, ni les prophéties ne vont remplacer la Bible. Mais le Seigneur parle aussi par là, donc nous devons aussi l'accepter. Et souvent, lorsqu'on peut s'interroger pour savoir est-ce que vraiment tout le monde aura entendu l'évangile, est-ce que quand le Seigneur reviendra, l'évangile aura été prêché à tout le monde. Mais il y a des personnes, comme ça a été le cas de Mohamed, à qui le Seigneur s'est révélé personnellement. Or, il y a des personnes comme ça, dehors, qui ont peut-être aussi fait des songes. Qui ont fait des songes, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'en ont pas eu encore l'explication. Donc, dès l'instant où un jour ils vont entendre parler de l'évangile, c'est peut-être là pour ces personnes-là où finalement le songe va prendre une véritable signification. Peut-être qu'en lisant un Nouveau Testament, ce qu'il va lire peut-être va lui rappeler le souvenir du songe qu'il avait fait. Donc d'où l'importance justement de parler, puisque lorsque le cœur est disposé, nous personnellement, on ne peut pas le savoir tout le temps. C'est pourquoi le Seigneur dit que la moisson est blanche. Voilà, mais il manque des ouvriers. Donc nous devons avoir cette liberté-là en ayant conscience qu'il est possible que la personne ait déjà entendu parler de l'évangile d'une manière ou d'une autre. Par un songe, par une vision, pendant qu'il est dans le coma, on ne sait pas. Voilà. Et peut-être qu'il manque justement cette révélation-là qui va finalement donner un véritable sens à ce que cette personne avait entendu ou bien à ce qu'elle avait vu. Donc ça doit être pour nous un encouragement aussi dans l'annonce de l'évangile et de nous persuader qu'il y a des personnes qui sont dans cette attente-là, dont les cœurs sont peut-être disposés, peut-être prêts déjà à entendre l'évangile. Et c'est toujours sur ce point-là. D'accord, vas-y.
Oui, dans le film aussi, on peut voir comment la marche que le Seigneur a fait. Comme par rapport aux songes, il y a eu d'abord des songes, mais le dernier rêve, on a vu qu'il était devant plusieurs livres et il cherchait quoi lire, mais quand le Seigneur l'a demandé, il a présenté, Dieu lui-même l'a présenté la Bible, Jésus l'a présenté la Bible et il commençait maintenant à lui parler, à l'évangéliser en quelque sorte et jusqu'à ce que lui dit « Est-ce que tu veux me recevoir ?» Donc on voit vraiment qu'après les épreuves, mais vraiment la véracité de l'évangile, même si on peut avoir des songes, mais la finalité,
tout ramènera, ça sera la Bible.
Sur la Bible, quoi.
Ça sera la Bible, ça c'est vrai. Et donc, on va voir aussi qu'il y a une forme de similitude entre la conversion de Mohamed et de son père. Bon, similitude peut-être pas, mais il y a un parallèle à faire. Nous avons vu comment le Seigneur a préparé donc son cœur, notamment par les songes. Et son père aussi a fini par accepter l'évangile. Et de quelle manière a été préparé son père? Est-ce qu'il a été préparé de la même manière? Il y a eu aussi une préparation. Derrière toi, Emmanuel.
Je pense que pour son père, le Seigneur a permis qu'il aille au bout de sa méchanceté, de sa stratégie de vouloir faire renoncer son fils, sa stratégie d'emmener son fils à renoncer à Jésus. Et en fait, c'est là qu'a été la préparation de voir que son fils tenait à tout ça. Et puis la dernière question qu'il a posée à son fils, de savoir la vie éternelle, quoi.
D'accord. Mylène?
Oui, moi je pense aussi c'est de voir la main de Dieu quand même, parce que bon, même si lui il réalisait pas à ce moment-là que c'était le Seigneur, mais il a vu quand même les miracles qui se sont accomplis par rapport au poison, par rapport au piège qu'ils lui ont tendu pour le tuer, etc. Bon, il s'en est toujours sorti, quoi. Donc en plus il avait même prié avant le poison, donc bon, il a vu quand même Dieu se glorifier dans la vie de son fils.
D'accord. Voilà, Cathy et puis Daniel.
la question qu'il a posée à son père en lui disant tout simplement « Est-ce que tu peux me donner la vie éternelle ?» Et son père, il a réfléchi et il lui a dit non. Il a dit donc « Je reste avec Jésus parce que lui peut me la donner. » Donc d'accord, ça aussi, ça a
ça
été...
Ça fait partie de la préparation, ouais. D'accord. Il n'y a qu'un seul micro.
Moi, je pense aussi qu'il a été touché, enfin, sur le long terme, par le témoignage de son fils, qui a toujours manifesté l'amour et qui n'a pas voulu, quoi, qui a continué tout jusqu'au bout à l'aimer. Je pense que ça, c'est l'amour qui l'a touché, à mon avis.
Aussi. Son père l'a souligné à la fin aussi. Donc, oui, vas-y, Christian.
Oui, moi, je voulais dire, c'est la première chose qu'il va dire à son fils, quand il va le voir, il va demander pardon. Est-ce que ce n'était pas une préparation du fait qu'il a été convaincu de son péché parce que le mal qu'il voulait faire à son fils, fin de fin, il a compris que qu'il avait mal agi, quoi. Donc, est-ce que ce n'était pas une préparation? La Bible dit que le Saint-Esprit viendra nous convaincre de péché. Est-ce que ce n'était pas une préparation dans laquelle que Dieu l'a convaincu que tout ce qu'il faisait, c'était un péché, il fallait qu'il se repente?
D'accord. Donc, nous sommes d'accord. Donc, Daniel, après, je vais intervenir après.
Oui, ça rejoint un petit peu ce que la sœur, elle a dit. Mais il était rempli d'amour aussi. Il honorait son père, quand même. Il le respectait. Il était rempli de douceur. Je trouve que... Il reflétait l'amour de Dieu, je trouve. Il était dans la paix. Malgré qu'il sentait les persécutions de la famille à côté, le rejet de son père, mais il était toujours dans l'amour pour son père quand même. Il a toujours continué à l'aimer.
Voilà, donc nous sommes d'accord pour dire que finalement que c'est Mohamed qui a été l'instrument de préparation pour disposer le cœur de son père. Alors, si on voit le problème différemment, si Mohamed avait cédé, qu'allait-il se passer? S'il avait cédé, qu'est-ce qu'il allait se passer? Pardon? S'il avait cédé à tout ce que son père lui avait dit, ou peut-être qu'il se serait énervé, voilà, s'il avait cédé à toutes les propositions de son père, notamment quand il est sorti de prison, qu'on lui a proposé un troupeau de 100 têtes, 3 femmes, plus l'argent pour entretenir les femmes.
Son père n'allait jamais être converti.
Son père n'allait jamais être converti.
Enfin, jamais, mais ça allait pas, il n'allait pas se convertir.
Voilà, bon, on ne sait pas, mais en tout cas, ça allait être un obstacle certain si Mohamed avait cédé. Donc, nous voyons là vraiment l'importance de notre témoignage et l'importance de tenir ferme. Donc, à travers notre fermeté, c'est aussi la démonstration que notre Dieu est vivant. Tant que nous sommes combattus, il y a des personnes qui peuvent tout simplement regarder de l'extérieur pour voir quelles sont les réactions que nous allons avoir. Et souvent, ils sont là à l'affût. Moindre petite faute, petite colère, énervement, ah, voilà, vous les chrétiens, c'est comme ça. Donc, les gens sont à l'affût. Or, nous voyons que lorsque nous tenons ferme, et nous tenons ferme dans le temps, les gens partent, ils reviennent 5 ans après, tiens, le frère est toujours chrétien. Ils partent, ils reviennent 6 ans après, tiens, la sœur est toujours chrétienne. Donc, là, ça commence aussi à interpeller. La personne se dit, ben, c'est sérieux cette histoire-là. Donc on voit que notre fermeté dans le temps peut aussi préparer les personnes à comprendre que véritablement, le Dieu auquel ils croient, c'est lui qui est le vrai Dieu. Donc d'où l'importance, bien aimé, de tenir ferme dans le temps afin d'être aussi des instruments de conversion pour les autres. Pour les autres, parce que nous sommes appelés à aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est vrai par la prédication, mais aussi par notre manière de vivre, notre manière de confesser le Seigneur, notre manière de tenir ferme devant toutes les attaques, devant toutes les propositions que le monde peut nous faire, que le diable peut nous faire, mais en restant fidèle au Seigneur, ça devient aussi un témoignage pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être renoncé ou bien qui n'ont jamais fait le pas vers le Seigneur parce qu'ils ont peut-être côtoyé des chrétiens qui tombaient tout le temps, des chrétiens qui ont commencé, après qu'ils font deux pas en arrière, ils commencent, après on les retrouve en boîte de nuit. Donc ils ont l'impression que finalement la vie chrétienne c'est comme un jeu, qu'il n'y a rien de sérieux, voilà, parce qu'ils voient que tel chrétien l'avait bien commencé, il est tombé. Tel chrétien, mais je le vois là, on s'est croisé hier à la fête. Donc, ils ont l'impression que la vie chrétienne, finalement, c'est une vie qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Et à travers cette vie-là, certains ont du mal à venir au Seigneur et à se prendre au sérieux. Il y en a qui résistent encore dans leur méchanceté parce qu'ils ont réussi aussi à casser des églises. Ils ont réussi à briser, à casser des églises, à entrer, s'infiltrer dans les assemblées et amener des divisions entre les frères et sœurs. Et voilà que petit à petit, les chrétiens commencent à se ranger entre eux et l'église tombe comme ça. Et quand les gens qui sont mandatés pour ça arrivent à déstabiliser, détruire des églises comme ça, ils se disent, ben voilà, aucune puissance. Aucune puissance. Mais lorsque ils tentent tout pour le tout, que ce soit d'une manière spirituelle ou physiquement, mais qu'ils voient que tiens, il est écrit dans la parole, aimez-vous les uns les autres, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsque ça s'est appliqué, les gens commencent à s'interroger. Et après avoir lutté, 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 ils se rendent compte, ben tiens, on a affaire à un mur, ce n'est pas la peine. Autant nous-mêmes nous convertir. Et lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, notamment l'histoire de Daniel, ils ont tenu ferme. Et parce qu'ils ont tenu ferme, des rois se sont inclinés. Et ont confessé, ont reconnu que le Dieu de Daniel, c'est celui-là qui était le vrai Dieu. Parce qu'ils ont refusé de se soumettre, mais ils ont été fidèles à leur Dieu. Et à cause de cette fidélité-là, eh bien, des rois se sont inclinés devant l'Éternel. Parce qu'ils ont tenu ferme. Donc nous voyons que Mohamed n'a pas eu peur de prendre le poison. Donc, je reviens donc au point que la sœur avait commencé à développer en disant qu'il a reçu une grâce particulière. Est-ce qu'on peut dire que la grâce que Mohamed avait reçue était différente de celle que nous avons reçue ou de celle que le Seigneur promet à tout homme? Est-ce que la grâce était particulière? Est-ce qu'elle était supérieure pour que lui ait le courage de prendre le poison?
De toute façon, c'est la même grâce que l'on a tous reçue. Ce n'est pas du tout une grâce particulière pour lui. Mais c'est vrai que quand on est... Moi, je crois que c'est une histoire de foi. Il avait la foi, c'est tout. Hein. Parce que c'est vrai qu'au début, de la conversion, tout ça, on est tout feu, on est vraiment, et c'est vrai que on a la foi que Dieu peut agir en toute situation. Bon, il a prié, il a bu, et puis voilà. Mais c'est sûr que après, dans le temps, après des années, c'est là qu'on perd la foi et qu'on est découragé pour rien. Mais quand on est bébé, jeune bébé en Christ, voilà, on y va, on croit. C'est écrit, et puis on boit, on fait, enfin bref, et puis c'est cette foi-là que Dieu veut que l'on ait toujours. Hein. Donc il a bu, il a eu foi, donc il a prié, et puis on l'a tous, franchement, cette grâce, mais c'est nous, quoi. Le problème, c'est nous. Hein.
D'accord, Christelle?
Oui, je pense aussi que cette foi qu'il a eue, c'est la foi que nous tous chrétiens on devrait avoir et on l'a tous. Elle est notre, elle est là pour nous. Mais néanmoins, la foi, c'est un don de Dieu. Alors, je ne mets pas en doute hein, la partie que on devrait tous avoir ce feu et cette foi que même si on boit la breuvage mortelle, rien ne va nous arriver. Mais la Bible dit que la foi est un don de Dieu. Alors, est-ce que dans ce contexte-là, il s'applique?
Moi, je vais te répondre par une question. Est-ce qu'on peut trouver un chrétien qui se dit chrétien et qui n'a pas la foi? Est-ce qu'on peut devenir chrétien sans la foi? Donc forcément, tous les chrétiens ont reçu le même don de foi. Comme tous les hommes qui acceptent le Seigneur reçoivent le même don de foi qui va nous amener à reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Maintenant, les épreuves de la vie peuvent nous amener, je dirais, à grandir dans la foi. Mais même grandir dans la foi, ça reste toujours un choix. Le choix, nous le faisons en fonction des épreuves que nous vivons et finalement l'attitude que nous allons adopter. Voilà, donc c'est là où la foi va grandir. Mais la foi, c'est avant tout une question de choix Et c'est une question de renoncer à nous-mêmes. Au moment où il décide de prendre le poison, il est prêt à mourir. Il est prêt à mourir. Il dit, Seigneur, c'est à cause de toi que je le bois. Voilà. C'est à cause de toi. Donc, à ce moment-là, il est prêt à mourir. Et c'est là où je disais qu'on pouvait faire un parallèle avec le papa. C'est qu'il a été aussi préparé avec le fils comme instrument. Et au moment où le fils lui dit, je vais prier pour ta guérison, à ce moment-là, il pouvait se souvenir, ben, tiens, si je suis guéri, je veux pouvoir retourner au village, profiter de mes trois femmes peut-être. Donc, il aurait pu avoir, je dirais, un regard sur tout ce que la chair aime. Mais il va dire non. Non, ne prie pas pour ma guérison, je suis prêt maintenant à partir. Voilà. Donc on voit qu'à un moment donné, il se retrouve dans, les deux sont prêts à mourir. L'autre par le poison, l'autre qu'on lui propose la guérison, entre guillemets, il dit non, je ne veux pas. Voilà. Donc on voit là une similitude. Il y a eu un temps de préparation pour les deux qui a été différent, mais pour les amener au même objectif, accepter le Seigneur et être prêt à mourir pour le Seigneur. Et en quelque sorte, ils ont atteint cet objectif-là. Donc la grâce, nous l'avons tous. Voilà, tel que nous l'avons dit pendant ce séminaire, la grâce est pour tout le monde, le salut est pour tous ceux, est proposé à tout le monde, et ceux qui l'acceptent reçoivent la même grâce. Après, il y a une question de foi, tout simplement. Donc la grâce de Mohamed n'a pas été différente de celle que nous avons aujourd'hui. Les promesses qui sont dans la Bible qu'on avait présentées à Mohamed sont les mêmes promesses que nous avons aujourd'hui. Après, tout dépend, voilà, de notre volonté de l'appliquer. Voilà, donc pour ceux qui ont reçu un petit texto ce matin, où le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Et c'est une manière de tout simplement dire que ceux qui veulent tenir compte de ce que je dis, qu'ils en tiennent compte. Voilà, donc l'homme est libre dans son choix, libre d'appliquer et de vivre les promesses du Seigneur. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le Seigneur ne fait point de favoritisme. Donc la foi que Mohamed a eue de boire le poison, nous avons le choix d'appliquer. Nous avons le choix d'appliquer. Quand on dit d'appliquer, il ne s'agit pas d'aller se tenir devant la place publique pour faire une démonstration, venez voir, je veux boire du poison, rien ne va m'arriver. Non. On se retrouve dans une situation où nous sommes bloqués. Là, il y avait deux hommes qui l'attendaient avec des machettes. Donc, s'ils ne buvaient pas le poison, c'était la machette. Voilà. Mais de toutes les manières, comme le Seigneur avait prévu de faire son œuvre, lui, il allait le faire. Mais voilà la démonstration et tout ça aussi qui a contribué à vraiment interpeller le papa sur la réalité de ce Dieu-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Francesca?
Non, je voulais dire, tu parlais de la fermeté. Dans Philippiens 1, Paul dit aux Philippiens, votre fermeté va prouver à vos adversaires qui sont dans la perdition.
Il y a aussi un moment où... Mohamed, il dit je ne sais plus comment il dit ça, mais s'il restait avec son père, il sentait que sa foi commençait à le quitter. Donc il est parti avec des personnes qui l'ont aidé à retrouver sa foi, enfin, ou à persévérer dans la foi.
Amen. C'est un point qui est important parce que c'est un point qui finalement, oui, emmène quelques chrétiens à sombrer. Là, à ce moment-là, il sort de prison, il sort de ses 6 mois de prison et la police le ramène chez ses parents. Donc, on lui promet toutes ces choses-là, son tête de bétail, tout ça. Et il dit, mais quand je reste là, donc, il sentait que sa foi était en train tout simplement de diminuer. Il n'était plus au contact des chrétiens qu'il avait accueillis quand il avait fui la première fois. Donc, il sentait que les dispositions dans lesquelles il était désormais n'étaient plus favorables pour sa foi. Et il y a un verset qui dit que le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Et beaucoup de chrétiens refusent de vivre ce verset-là. L'épée, la division dans la famille, beaucoup de chrétiens refusent. Ils s'accrochent à tout prix pour vouloir conserver une forme d'amitié, mais qui ne va pas, je dirais, dans le plan de Dieu à ce moment-là. Donc il y a un moment donné où il faut accepter que ce verset-là s'impose dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher ou fabriquer. Mais tout simplement, le choix de suivre le Seigneur fera qu'il y a une division automatiquement. Après, il y a ceux qui vont chercher à résister pour dire, mais non, il faut aimer, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est aussi la justice. Et la justice, c'est aussi la division à un moment donné à cause de la vérité. Donc, c'est un passage qu'on doit accepter pour aussi réellement entrer dans le plan de Dieu et vivre aussi toutes les promesses du Seigneur pour qu'à la fin, ça puisse aussi finir comme ça a fini par Mohamed. Donc la division, celle que le Seigneur annonce, est une division qui va nous permettre à nous de pouvoir être forts ensuite pour retourner vers les membres de nos familles et pour les convertir. Mais tant que nous restons et que nous refusons que ce verset-là s'applique à nous, mais nous ne sommes pas totalement dans le plan de Dieu. Donc il y a quelque chose qui freine l'action de Dieu, la puissance de Dieu dans notre vie, sachant que la puissance de Dieu se manifeste lorsque nous sommes dans l'obéissance. Plus nous sommes obéissants, plus la puissance de Dieu se manifeste. Plus nous résistons, moins Dieu se manifeste. Parce que lorsqu'on résiste, c'est une manière de dire que nous sommes forts, que nous pouvons gérer. Alors comme Dieu ne s'impose pas, il nous laisse aussi gérer. Donc c'est un point qui est important.
Par rapport à la grâce, on a tous la grâce, mais quand même, dans ce reportage, enfin dans ce film, je trouve qu'il a quand même une grâce particulière qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il fait un rêve, ok, ça peut arriver une fois, mais là, il en refait encore un, et il en refait encore un. Donc je trouve vraiment qu'il a une grâce particulière et qu'il l'a vraiment aidé pour avoir la foi, quoi. Ça l'a renforcé pour chercher, pour aller plus loin. Il cherchait déjà, mais le fait qu'il a eu ça en plus, à mon avis, ça l'a aidé.
Chacun a une grâce particulière dans la manifestation de Dieu. Donc particulière, c'est-à-dire liée à toi, liée à ton histoire, liée à ton passé, liée à ton éducation, liée à ton contexte de vie, liée à ton lieu de vie. Le Seigneur va tenir compte de ça pour savoir comment se révéler à toi. Donc ça sera forcément différent de la manière peut-être que le Seigneur s'est révélé à moi, parce que nous n'avons pas eu la même éducation, nous n'avons pas le même caractère, nous n'avons pas les mêmes défauts. Donc le Seigneur tiendra compte de ce que je suis pour savoir comment faire avec moi. Donc ce n'est pas dans la différence, parce qu'il y a différence dans la manière dont Dieu s'est révélé à Mohamed et certainement à nous qui sommes ici, que ça veut dire qu'il a eu une grâce mieux que la nôtre. C'est faux. Sinon, ça voudrait dire que le Seigneur fait du favoritisme. Non. Le Seigneur s'est révélé à lui en fonction de son milieu, en tenant compte de ce qu'il était, de là où il vivait, et que c'était par ce moyen-là qu'il fallait qu'il se révèle à lui. Hein. Donc non, il n'y a pas une grâce plus excellente que la nôtre. La grâce est la même.
Oui, pasteur, je veux intervenir au fait sur la puissance du salut. Parce que quand on voit la puissance que Dieu a manifestée dans la conversion de Mohamed, c'était une conversion en fait radicale, quoi, donc du changement du noir au blanc. Et il y a des conversions où on voit que la personne se donne au Seigneur, mais il lâche un peu la vie du péché petit à petit. Est-ce que on peut classer ça dans une conversion, ou bien il y a eu une résistance dans cette relation de l'homme avec Dieu?
L'homme peut avoir des faiblesses. Nous avons vu que lorsque le Seigneur s'est révélé lui-même à ses disciples, il avait fait quelques exploits à un moment donné. Et nous voyons que lorsqu'il va calmer la tempête, il va encore s'étonner. Mais c'est à qui celui-là à qui on obéit encore le vent? Donc pourtant le Seigneur s'était révélé. Voilà. Et le Seigneur a dit: gens de peu de foi. Donc la personne peut aussi croître, comme l'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre 2, désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel afin de croître dans le salut. Donc, on peut grandir dans la foi. Donc, après, au niveau de la conversion, comme nous l'avons expliqué là pendant ces 3 jours, ce n'est pas après une expérience ou bien une personne va tomber qu'on va dire « n'en est pas converti ». Voilà, il y a plusieurs éléments qu'il faut observer pour vraiment juger est-ce que la personne est convertie ou n'est pas convertie. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes à qui on a prêché plusieurs fois avant qu'elles se convertissent. Et il y a des personnes qui ont entendu l'évangile le premier jour, ils se donnent aussi. Voilà, donc là, ce sont des choses qui nous dépassent parce que c'est au niveau du cœur. Maintenant, voilà, c'est vrai. Vas-y, Christian.
J'ai une question. Quand on parle de grandir dans la foi, c'est une question. On a l'impression que quand on voit certaines assemblées ou bien une façon de prier, bon, quand j'étais dans une assemblée africaine, on avait l'impression que les gens voulaient grandir dans la foi pour avoir la foi de Mohamed, boire le poison et pas mourir. Alors, si on parle de maintenant de grandir dans la foi, quel est l'objectif de grandir dans la foi?
L'objectif de grandir dans la foi, c'est de s'attacher tout simplement à Dieu. La foi, c'est ça qui nous permet d'être attachés à Dieu. je peux aujourd'hui vivre une épreuve, je vais crier au secours, pasteur, viens à l'aide. Peut-être dans 2 ans, la même épreuve, je vais moi-même m'humilier, jeûner et passer l'épreuve. Voilà, en fonction de ce que le Seigneur aura permis, en fonction des enseignements, et ma manière maintenant de grandir avec le Seigneur fera que pour la même situation, je vais l'interpréter, je vais l'aborder d'une manière différente. Donc c'est là où aussi on voit la croissance de quelqu'un.
Oui, parce que je me souviens par rapport à certains témoignages, il y a des pasteurs qui ont fait des miracles, qui ont cru qu'ils avaient déjà atteint un niveau de foi plus élevé que les autres, mais après un moment, ils ont chuté. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient une foi élevée ou une grande foi, quoi?
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. Parles. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Bible nous montre que certains ont fait naufrage à la foi. Il y a des gens qui ont travaillé avec Paul et qui ont abandonné Paul pour l'amour du siècle. Donc, quelle foi ils avaient, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ils ont servi le Seigneur véritablement, que c'était attesté qu'ils servaient Dieu, c'est qu'ils avaient cette foi-là qui plaisait au Seigneur. Après, maintenant, quels sont les éléments qui ont fait qui tombent d'aussi haut? Bon, je ne sais pas. Mais c'est possible.
Je voulais faire un lien avec le poids de la culture quand même dans le film, parce que voir quand même le fils se prosterner devant son père et tout ça, quelquefois, ben, je peux dire malheureusement, hein, on grandit avec des valeurs qui sont très enracinées, et si le Seigneur ne se révèle pas à nous, on peut rester très longtemps avec ces choses-là, et accepter le Seigneur avec ces genres de valeurs-là, c'est pas possible. Donc oui. C'est vraiment une certaine foi qu'il a manifestée, de ne pas se soumettre au fait à ce moment-là. Bon, heureusement, il était grand aussi, parce qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas dire non, je ne veux pas. Mais le Seigneur a permis qu'il puisse donner dos à tout cela et mettre la culture de côté. Parce que quelquefois, c'est ce qui nous empêche d'avancer en fait, avec le Seigneur.
Très souvent, surtout dans les pays où la culture est très ancrée. Bon, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas grandi avec des notions de culture très, très ancrées, mais... Lorsque c'est lié, surtout, je dirais, en Afrique, le droit d'aînesse, c'est quelque chose mais que tu ne peux pas négocier. Donc, c'est impossible lorsque papa parle que toi, tu puisses même t'expliquer, te justifier. C'est impossible. Donc, c'est vrai que la culture, c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Quelque chose qui est terrible. Et lorsqu'on voit une personne, oui, renoncer à la culture pour suivre l'évangile, donc, ça veut dire que vraiment, le Seigneur l'a touché, quoi. Voilà. Mais malheureusement, on voit aussi au milieu des chrétiens des gens qui sont encore attachés un peu aux cultures. Voilà. Mais tôt ou tard, ça fera un obstacle. Ça fera un obstacle. Voilà. Donc nous allons bénir le Seigneur s'il n'y a pas d'autres interventions. Voilà. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide vraiment à vivre pleinement le salut, à vivre pleinement dans la foi et à considérer que la grâce que nous avons est la même pour chacun d'entre nous. Voilà, souvenons-nous que dans le Seigneur, il n'y a pas de favoritisme et nous allons bénir le Seigneur pour ce témoignage au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir encore, Seigneur de gloire, pour ce salut, pour ce cadeau si merveilleux, Seigneur. Au travers de ce témoignage, nous réalisons encore, Seigneur de gloire, ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable de faire aussi dans nos vies. Nous voulons nous souvenir, Seigneur de gloire, de ce que tu es, de ce que tu es capable de faire, et nous voulons nous souvenir aussi, Seigneur de gloire, de l'endroit, Seigneur de gloire, où, dans lequel nous étions lorsque tu es venu nous chercher, Seigneur, l'état dans lequel nous étions lorsque tu es venu nous chercher, Seigneur, afin de manifester pleinement notre reconnaissance. Nous te louons, Seigneur Dieu de gloire, pour ce témoignage qui est pour nous un véritable enseignement, qui nous rappelle, Seigneur de gloire, que nous sommes les instruments que tu veux utiliser pour les membres de nos familles, Seigneur, pour tous ceux qui nous sont proches, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à grandir dans la foi en acceptant les épreuves que tu permets dans nos vies, en étant obéissant, en étant soumis, Seigneur de gloire, à tout ce que nous pouvons appeler petits commandements, Seigneur. Car tu dis que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur de gloire, être fidèles en tout point de vue, Seigneur, dans tout ce que tu nous demanderas, Seigneur. Et nous crions à toi parce que nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur de gloire, pour ce témoignage, Seigneur de gloire, qui nous enseigne, Seigneur, à tenir ferme, Seigneur, que par la fermeté, Seigneur de gloire, que dans la durée, Seigneur, même ceux, Seigneur de gloire, qui se moquent aujourd'hui, qui nous combattent aujourd'hui, Seigneur de gloire, par notre persévérance et notre fermeté dans l'Évangile, Seigneur, finiront par fléchir les genoux, Seigneur. Dans le nom de Jésus, soutiens-nous, Seigneur de gloire, toi qui produis en nous le vouloir et le faire, Seigneur, nous nous humilions et nous nous recommandons, Seigneur, entre tes mains, afin, Seigneur de gloire, de vivre pleinement la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire, toute l'honneur, Seigneur, à toi et à toi seul, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen.